Et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet. Où porter son regard cette semaine ? Sur la présentation par l'auteur du Lotissement du ciel, dernier volume de ce que l'on considère comme les mémoires de Blaise Cendrars, paru en 1949. Voici donc le prière d'inséré, magnifique profession de foi. Je voulais indiquer aux jeunes gens d'aujourd'hui qu'on les trompe, que la vie n'est pas un dilemme et qu'entre les deux idéologies contraires entre lesquelles on les somme d'opter, il y a la vie avec ses contradictions bouleversantes et miraculeuses, la vie et ses possibilités illimitées, ses absurdités beaucoup plus réjouissantes que les idioties et les platitudes de la politique, et que c'est pour la vie qu'ils doivent opter, malgré l'attirance du suicide, individuel ou collectif, et de sa foudroyante logique scientifique. Il n'y a pas d'autre choix possible, vivre. Ancienne reporter à Libération et au Canard Enchaîné, spécialiste des affaires judiciaires, notre invitée est depuis le 14 octobre 2020, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est-à-dire qu'elle est chargée du contrôle des prisons, mais aussi des lieux de garde à vue, centres de rétention, centres éducatifs fermés et d'une partie des hôpitaux psychiatriques. De 79 à 91, cette apôtre de la justice a également œuvré comme éducatrice à l'administration pénitentiaire. L'heure qui vient est à la révolte.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Dominique Simoneau.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Ah bah quelle question. Oui, je suis très contente.
Ça a toujours été le cas ?
Toujours, je crois.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Je me prends pas la tête avec moi-même. J'ai l'habitude de plutôt vivre. D'ailleurs, ça va bien avec ce... J'aime vivre. Et j'aime bien vivre, j'aime avoir des amis, j'aime rire. Alors évidemment, le métier que j'ai toujours, les métiers que j'ai enquillés finalement les uns après les autres, portaient pas à rire, mais je pense que, au contraire, mais sans ce rire qui est en moi, je crois pas que j'aurais pu continuer.
Alors, c'est la joie de vivre et la révolte qui vous donnent envie de vous lever, Dominique Simoneau. La joie de vivre, ça a toujours été le cas, j'insiste parce que je suis toujours étonnée quand je rencontre des gens joyeux.
Je crois que je n'ai jamais cessé de toute ma vie de remercier mes parents de m'avoir insufflé ça, parce que je pense que c'est grâce à eux on a eu une enfance très heureuse, mais ils étaient marrants surtout. Ils étaient excentriques, je me suis amusée avec eux, et ils m'ont appris à m'amuser moi aussi.
Et le sentiment de révolte, est-ce que ça vous accompagne depuis petite ?
Oui, je pense quand je revois mon enfance, tout ça, j'ai toujours détesté l'injustice, j'ai toujours détesté qu'on fasse du mal aux gens, quand j'étais petite, du mal aux bêtes, du mal aux autres, j'aime pas ça, et voilà, je n'ai jamais cessé de détester l'injustice, la malfaisance, et je trouve que quand on a eu la chance que j'ai eue dans la vie, c'est un peu normal de la rendre et aussi de se révolter en voyant que d'autres, sous prétexte, mais c'est banal ce que je dis, je vous assure,
mais essentiel.
Sous prétexte qu'on est du mauvais côté de la barrière, moi j'ai tout eu et certains n'ont rien. Je trouve que ça c'est des choses à réparer et j'essaye.
Comment vous faites pour ne pas être découragé quand vous êtes le témoin direct et récurrent des pitoyables conditions de vie dans les lieux de privation de liberté ?
Je dirais que mon ancien métier de journaliste m'y a beaucoup aidé. Parce que quand on est journaliste judiciaire et qu'on est spécialiste de l'immigration également et des prisons également, on a tellement l'habitude que les chefs vous disent au journal tu nous emmerdes avec tes sans-papiers, qu'est-ce que tu viens nous emmerder aussi avec tes taulards, mais ça va, quoi. Et puis, quand il y a des trous dans les pages, venir supplier, t'as pas un sans-papier qui traîne, t'as pas une prison, une histoire de prison, allez Dominique, sois sympa, que on a tellement l'habitude de se battre pour ces sujets que je dirais que ça forge une sorte de carapace. Je suis bien reconnaissante à tous mes chefs qui m'ont embêtée avec mes papiers, qui n'ont pas voulu les passer ou que j'ai réussi à faire passer en me battant parce que Voilà, ça m'aide beaucoup aujourd'hui.
Ça fait jaillir des rires nerveux de l'autre côté, comme vous le voyez. Dans un instant, Dominique Simoneau avec vous, il sera entre autres question de Jacob Wasserman, d'Edith Piaf, de Justice évidemment, des Beatles, de Sergio Leone, d'Une femme à Berlin et de Bach. Nous avons jusqu'à 11h pour aborder tout ça.
L'embellie, Eva Bester sur France Inter.
Je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord. La fièvre noire, j'aimerais te mordre plus tôt. Je sur Labrador, les murs me font perdre la vue et mon visage se tord. La fièvre noire, j'aimerais te mordre plus tôt. Éclose, j'ai le vague à l'âme.
Laura Cahen, le morceau La fièvre noire dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Dominique Simoneau. Que l'injustice répugne dans tous les domaines. Bon, ça, on l'a compris. Vous avez toujours été engagé pour diverses causes et vous aimez vous occuper des gens qui vous entourent. Je crois que l'expérience fondatrice concernant votre engagement, c'est votre première visite à la 23e chambre correctionnelle, celle des flagrants délits.
Oui, c'est vrai, j'étais étudiante en droit. Et notre prof nous avait dit, notre chargé TD nous avait dit, je vous conseille d'aller à la 23e chambre à Paris. Et là, j'ai découvert le contraire de ce qu'on nous apprend dans les manuels de droit, c'est-à-dire la sérénité de la justice, le temps qu'elle doit prendre. Tout était réglé en 20 minutes, les gens partaient au trou. Hein. 2 minutes, le président, à l'époque c'était beaucoup des présidents, s'adressait au prévenu en se moquant de lui. Alors mon brave Alors comme ça, quand vous dormez, vous, dans une voiture, vous arrachez les fils d'autoradio. C'est bizarre, le tribunal, quand il dort et qu'il fait des cauchemars, n'arrache pas des fils d'autoradio. Allez Mohamed, hop, au trou. J'avais été saisie d'horreur, quoi. Et cette révolte sur les comparutions immédiates, elle m'a jamais quittée. D'ailleurs, j'invite tout le monde dans chaque ville, dans chaque tribunal, il y en a, à aller voir.
Mais alors, moi, j'y suis allée une fois. Je sais pas si je le recommanderais aux auditeurs, parce que justement, quand on m'avait dit que tout le monde pouvait y assister, je m'étais dit c'est vraiment intéressant de voir la justice comme elle se fait et tout ça. Et en fait, j'étais glacée. C'est-à-dire, j'ai pas pu rester longtemps. Je trouvais ça épouvantable de décider du sort d'un être humain en 5 secondes. Je ne voyais pas beaucoup d'humanité, en
oui,
fait.
Oui, en 20 minutes, on ne voit pas beaucoup d'humanité. Alors, on vous raconte que, oui, c'est basé sur l'enquête. Oui, c'est une enquête de police qui a duré quelques heures, rien. On ne sait pas qui on juge. Et puis, vous savez, y a une enquête très intéressante qui est sortie il y a peu de temps de Secours catholique et d'Emmaüs sur la prison, dernier barreau de l'échelle sociale. Alors, je ne veux rien vous apprendre. En prison, on retrouve beaucoup de pauvres. Bon, la comparution immédiate, c'est une justice de classe. Moi, ma fille, je me suis toujours dit, si jamais ça lui arrive de passer en comparution immédiate, je choisirai l'avocat, je ferai ci, je ferai ça, elle aura son dossier. Là, les gens, ils passent, ils ont rien. Et quand on vient nous dire que la justice est laxiste, c'est pour ça que j'encourage les gens à aller voir les compas, comme on dit.
Dominique Simoneau, on va y revenir aux comparutions immédiates, mais vous avez été éducatrice à l'administration pénitentiaire de 79 à 91. En quoi cela consistait ?
Ça consiste à recevoir et à aider et contrôler les sortants de prison et les gens qui sont soumis à des alternatives à l'incarcération. La sursis probatoire, la libération conditionnelle en fin de peine, le travail d'intérêt général.
Ce que vous recommandez d'ailleurs ?
Oui.
Les alternatives.
Voilà, c'est ça. Donc on était là pour discuter avec eux, les contrôler, aller les voir à domicile, je crois que ça se fait plus beaucoup. Et on liait des liens, on était post-68 tard, hein. On était assez rebelles, on était une bonne bande. Et je pense que sans être d'immenses professionnels, comme aujourd'hui le métier s'est beaucoup professionnalisé, je pense au détriment d'une certaine humanité peut-être.
Vous aimeriez changer beaucoup de choses dans la société, des choses dont vous avez beaucoup traité dans Libération et dans Le Canard Enchaîné. Et là, je vous cite pour l'émission « Plus personne à la rue, le traitement des sans-papiers, la surpopulation carcérale, les comparutions immédiates, le désintérêt porté aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, la guerre, les réfugiés, la banquise qui font... » On commence par quoi ?
Eh ben, je sais pas, le début, les enfants de l'ASE.
Oui, alors les enfants de l'ASE, justement.
Eh bien, je suis frappée, on parle beaucoup des EHPAD, et à raison, et du non-contrôle. Quand vous êtes placé par l'aide sociale à l'enfance, déjà, vous n'avez pas de chance, hein, au départ. C'est des enfants qui n'ont pas de chance. Soit ils ont été abandonnés, soit ils ont été maltraités, soit, en tout cas, il y a eu un accident grave de la vie qui font qu'ils sont placés. Ils sont placés dans des familles d'accueil, il y en a pas assez. Ils sont placés dans des foyers de l'enfance. Le tout n'est pas contrôlé, très peu contrôlé. Donc, on y trouve des maltraitances pareilles. Ensuite, moi, ces gosses, on les retrouve dans des centres d'éducation renforcés ou je ne sais où. Après, nous, au contrôle général, on les récupère dans les centres éducatifs fermés quand ils ont commis leur premier délit. Après, on les retrouve aussi dans les prisons pour mineurs. Et ensuite, on les retrouve sur les bancs des comparutions immédiates où 50% environ des gens qui sont... en très immense majorité de jeunes hommes, sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a bien un problème. Et au lieu de faire en sorte que ces gamins aient plus d'heures de cours que les autres, plus d'enseignement, plus de formation, non, ils en ont moins. Je trouve qu'on est là dans un vide affreux. Ces enfants, ils sont petits, ils n'ont pas de voix pour s'exprimer, pour dire ça va pas, là où je suis, ça va pas, je suis malheureux. Et au fond, ils n'ont personne à qui faire confiance. Puisqu'on dit, on te retire d'une famille maltraitante et on te colle dans un endroit où peut-être tu vas être maltraité. En plus, vous avez entendu parler, c'est de l'absurdité, de ces histoires de gosses placés dans une famille à qui on le retire parce que soi-disant la famille l'aime trop. Alors, il y a eu des tas d'histoires comme ça qui ont fait scandale sans qu'on n'y change rien. Il n'y a pas de politique nationale de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est par département. Je trouve ça consternant. Et ça, j'en parle beaucoup avec la défenseure des droits, Claire Hédon, et je pense que faut absolument qu'on agisse là-dessus. C'est nos enfants. C'est l'avenir de la société.
Citoyens.
Voilà.
On revient aux comparutions immédiates.
C'est la suite.
C'est la suite, ouais, c'est glaçant, que vous avez chroniqué pendant des années. Il y a eu deux recueils de chroniques, justement. Oui. Il y a eu une adaptation au théâtre de vos recueils. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les comparutions immédiates ? À nouveau, c'est une question de moyens, c'est une question de manque de personnel, d'encadrement, de contrôle ?
La comparution immédiate, le principe, je le rappelle, c'est une arrestation, une garde à vue, une enquête policière rapide ou de gendarmerie, un déferlement devant le procureur et ensuite dans la foulée l'audience, le procès, la condamnation ou ou la relax, mais c'est très très rare en compas. Je trouve que c'est une justice donc ultra rapide, une justice, oui, une justice de classe, ça fait décalé de dire ce mot, n'est-ce pas, justice de classe, mais ça existe. Une justice à deux vitesses, même la Cour de cassation, le rapport d'une affaire, parce qu'une fois les misérables comparutions immédiates sont passées devant la Cour de cassation, et il a dit c'est une justice TGV, très grande vitesse, trop grande vitesse, et une justice de classe. Bah oui, on y trouve un maximum de pauvres, de gens fracassés, et on envoie en prison des gens parce que ça va trop vite, et que quand ça se termine à 2h du matin, les juges aux yeux rougis s'en mêlent dans les noms, les avocats, comment vous voulez que... Ils défendent, que les gens se défendent. Ils sortent, ils sont là dans les geôles du palais de justice. Souvent, ils se tiennent le pantalon parce qu'il n'y a plus de ceinture, qu'on leur a retiré. Ils sont mal rasés, ils sont crados. Ils puent la trouille, parce que ça pue la trouille. Parce que, et dans les geôles, ça sent mauvais aussi. Ils n'ont pas pu prendre de douche. Sous les, c'est une justice, mais que moi, j'aborde. Et je trouve que les magistrats, d'ailleurs, beaucoup de magistrats la détestent aussi, et trouvent qu'il faudrait changer les choses. Et il faudrait que les audiences s'arrêtent à des heures normales et qu'on prenne le temps de juger chacun.
Vous avez envisagé, Dominique Simoneau, d'être magistrat ?
Oui. Et puis d'abord, j'étais trop paresseuse pour, pour passer le concours. Et ensuite, je crois que je n'aurais pas pu... J'ai fait... les auditions libres dans le parcours de mes études en droit, et j'ai été auditrice au compas justement, et je me suis dit je pourrais jamais.
Bon, alors si vous aviez un pouvoir politique, comment vous feriez pour les comparutions immédiates, pour l'ASE, pour plus personne à la rue, pour le traitement des sans-papiers, la surpopulation carcérale?
Alors, pour les sans-abri, d'abord je prendrais la mesure la plus simple qui a été insufflée par l'abbé Pierre. C'est la réquisition des logements vides. Je ne parle pas des logements des particuliers, mais tous les logements institutionnels vides, tous les immeubles vides, je ne vois pas pourquoi on ne les prend pas et pourquoi... Bon, alors, c'est sûr qu'il faudrait des moyens parce qu'on n'installe pas un squat comme ça. Il faut des règles. Les gens qui sont à la rue ne sont pas forcément faciles, ils sont cabossés. Voilà, mais déjà je ferais ça. La comparution immédiate, je la réformerai, ça c'est certain. Je la limiterai au maximum, je mettrai des seuils. Je dirais que, par exemple, les atteintes aux biens sans violence ne sont pas passibles de prison. Voilà, j'ai plein d'idées là-dessus, que je ne veux pas ennuyer tout le monde avec la technique, mais... Je pense qu'il faut mettre des seuils, dire non, ça n'est pas passible de comparution immédiate. Les stupes, c'est pas passible. Là, je sais que pour le shit, on a dit ce sera désormais des amendes. Mais on voit passer des gars dans des états lamentables qui ont vendu deux boulettes. Bon, écoutez, oui, notre bureau au contrôle, il est tout près de Stalingrad. Alors maintenant, on a envoyé tous les craqueurs... loin, porte de la Villette. Enfin, on sortait le soir à 9h30, il y avait 4 gars qui s'accrochaient à vous en suppliant « Princesse, donne-moi 1 €. » J'ai filé 5 euros à un mec un jour, il s'est mis à pleurer. Il a dit « C'est le plus beau jour de ma vie. » Du coup, c'est moi qui avais du mal à me retenir de pleurer. C'est quand même... Et vous savez, je suis pas là, bonne dame de charité, à dire « Ah, je vais faire le bien et tout va s'arranger. » Enfin... Il y a quand même des situations qu'il faut regarder en face et il y a des choses à faire. Pour les compas, je vous l'ai dit. Pour les immeubles réquisitionnés, je vous le dis, oui, je trouve que c'est ça qu'il faudrait. Et pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, il faut rendre plus attractifs les métiers d'éducateurs, avec peut-être plus de formation et des salaires en conséquence. Et puis, contrôler les lieux où on accueille les petits. C'est pas normal qu'un petit maltraité, on le retire d'une famille qu'il maltraite pour le coller dans un endroit où ça va pas du tout. Et qu'il puisse se plaindre à personne.
Non.
Puisqu'il n'a plus confiance en personne. Oui. Et ne plus avoir confiance en personne, ça veut dire devenir un adulte ou un jeune, un adolescent, pas tellement d'équerre. Et c'est bon pour personne. Donc tout ça, c'est des calculs à court terme que je trouve méprisables.
Dominique Simoneau, vous aimeriez aussi réussir à ce que les idées du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce que vous êtes, soient écoutées et suivies des faits. Vous avez un mandat de 6 ans, oui. Pendant lequel vous visitez les lieux de privation de liberté, les détenus, vous publiez des rapports, des recommandations, et évidemment, vous ne faites que dénoncer les traitements inhumains et dégradants, et la violation des droits dans les centres de détention.
Oui. mais dans les services fermés des hôpitaux psychiatriques aussi, puisque la psychiatrie est dévastée. Totalement dévastée. On trouve plus de praticiens hospitaliers, ils filent dans le privé, il y en a pas assez. La formation d'infirmier psychiatrique a été abandonnée, donc maintenant c'est une petite formation toute petite. On n'en trouve plus assez non plus, donc moi je suis pas là pour plaire aux soignants ni pour prendre leur défense, mais il faut bien reconnaître qu'à un moment ça retombe sur les patients. Donc dans ces endroits, dans les endroits où on trouve des équipes pareilles ou des équipes dévastées, forcément ça retombe sur les patients. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la contention et l'isolement par exemple, qui sont les pires des privations de liberté qui soient, puisque la contention c'est quand même être attaché par 5 points sur un lit ou une chaise. Bon, tout ça maintenant est sous le regard d'un juge, les psychiatres le prennent mal parce que ça ajoute à leur tâche qui, je l'avoue, sont immenses, puisqu'ils sont pas assez. Mais enfin, faut bien un regard extérieur. On peut pas laisser les choses aller comme ça. Et de même, on ne peut pas laisser les prisons dans cet état.
Alors, il y a actuellement 70 000 détenus en France pour 58 800 places. Dans certaines prisons, le taux d'occupation atteint 200%. Il y a 15 ans, un surveillant avait à sa charge 53 détenus en moyenne. Aujourd'hui, il en a 150. Et chose que j'ai apprise en préparant cette émission, la journée par détenu, c'est 105 euros.
Oui. 105 euros pour ça, parce que pour ce que j'ai vu, dans certaines prisons, dans les maisons d'arrêt, puisque c'est là qu'il y a la surpopulation, et c'est ça qui en ce moment m'obsède, et obsède le contrôle d'ailleurs, comment voulez-vous envoyer des gens vivre à 3 dans, non pas 9 mètres carrés, hein,
4.
C'est 4 mètres carrés parce qu'il faut enlever l'emprise des toilettes, l'emprise des lits superposés, l'emprise de la table, avec un matelas au sol à 3, avec des cafards qui cavalent dans la cellule, des punaises de lit, des rats dans la cour de promenade. Vous savez qu'il y a des gens qui nous disent je vais être grossière, mais je crois que ça parle à chacun et à chacune d'entre nous. Moi, je n'arrive plus à chier parce que j'ai honte devant mes co-détenus, parce que la porte ferme mal, parce que tout le monde entend le bruit, tout le monde sent l'odeur, alors je ne vais plus en promenade, parce que j'attends qu'ils partent en promenade. Du coup, je me retire. Du coup, j'ai des embarras gastriques, intestinaux énormes. Et du coup, je mange presque plus, pour ne plus évacuer. Enfin, où on est là? On est dans quel monde? On est dans quel... Qu'est-ce qu'on se permet, nous tous, là? Dans quelle société on est en train de vivre? Et alors, ce qui est marrant, si je peux dire, c'est que maintenant, c'est absolument normal. On envoie ces gens en prison en sachant qu'ils sont dans ces conditions. Mais non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce que ça s'apparente à un châtiment corporel, finalement. Voilà.
Messieurs, la minute est passée. Alors ? Personne n'est coupable. Donc tout le monde est coupable. J'admire, messieurs, votre solidarité dans la sottise. Et comme je ne puis punir tout le monde, un seul d'entre vous payera pour les autres. Vous, monsieur des artistes, vous serez en retenue tous les mercredis et tous les dimanches jusqu'à Pâques. Et vous me copierez intégralement et en allemand le livre de Nietzsche ainsi que par les Zarathoustra, y compris les rejets et les notes. Cela vous donnera le loisir de méditer sur la condition humaine.
Mais enfin, ce n'est pas moi.
Libre à vous d'éviter cette punition en désignant le vrai coupable.
Des artistes n'a rien fait, monsieur. C'est une injustice.
Vraiment, monsieur Andergast? Vous connaissez donc l'auteur de cette plaisanterie pour le moins douteuse?
C'est moi.
Tu es fou? C'est pas vrai, monsieur.
C'est moi et c'est à moi d'être puni.
Mais c'est faux.
Monsieur Andergast n'est pas homme à mentir. Ainsi, c'est vous. Vous prendrez la punition de monsieur des artistes.
On va découvrir les œuvres qui ont changé votre rapport au monde, Dominique Simoneau. Là, on entend un extrait du film L'Affaire Mauritius de Julien Duvivier, sorti en 1954, adapté du très beau livre éponyme de 1928, signé Jacob Wassermann, écrivain allemand ami de Rilke et de Thomas Mann. Et ces livres qui ont connu un grand succès à leur époque furent brûlés par les nazis avant de tomber dans l'oubli. Je l'ai lu grâce à vous et c'est sublime, même si ça revient sur une erreur judiciaire de la fin du 19e siècle absolument tragique.
Oui, c'est un livre qui m'a emballé. Enfin, vous l'avez, vous, ouais, de toute façon, vous avez dit, j'y adhère totalement.
Ouais.
Je l'ai lu, relu. C'est un ami avocat qui me l'avait donné en me disant, ce livre me hante. Et je comprends que ce livre le hante parce que moi, il me hante. Et c'est un livre sur l'erreur judiciaire, mais aussi sur la volonté d'un gamin de réparer cette erreur. Et à quel point c'est difficile, je ne vais pas dire plus, non. Mais c'est vraiment un livre extraordinaire. Et avec mes amis, on en a acheté tellement d'exemplaires qu'on avait commandé, parce que sur Livrebas, rare.com, parce qu'on n'en trouvait nulle part. Et alors, on a la prétention de penser qu'on a été tellement en acheté qu'il a été réédité.
Oui, en poche, chez Folio, oui. C'est celui que j'ai à côté de moi.
Voilà.
C'est magnifique, puisque c'est... Pour faire un bref résumé de ce dont il s'agit pour les auditeurs, c'est donc un homme accusé d'avoir tué sa femme, envoyé en prison à vie par un procureur. Et en grandissant, le fils du procureur, persuadé de son innocence, veut faire réviser son cas. Et il va se lancer dans une croisade
extraordinaire.
Extraordinaire.
Et contre son père.
Oui, il y a deux histoires parallèles magnifiques.
How come you didn't tell me?
I'd already made the deal with Frankie to get rid of Joe. With a man like Frankie Manoli, you don't say yes and then say no. I cannot take the chance to change your mind. You understand?
Well, you were right. I would have said no.
Frankie Manoli is as big as they come. You don't get nowhere alone.
I thought you were the guy that said you didn't like bosses. It sounded like a good idea then. It still is.
Let's just think about it, Noodles. They're going to ask us to come in with them. There's a lot in it for us.
Today they ask us to get rid of Joe. Tomorrow they ask me to get rid of you. Is that okay with you? Because it's not okay with me. Let's just forget about it.
On est à New York dans les années 30 et le gangster Noodles, joué par Robert De Niro, est dans une voiture avec son ami Max, James Woods, après une exécution brutale commanditée par un autre gangster avec lequel Max veut s'allier. Noodles refuse l'alliance et rappelle à son ami Max qu'il ne voulait pas de patron et conclut « Si demain il te demande de me tuer, ça t'ira parce que moi non ». 1984, le dernier film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, adapté du roman The Hoods de Harry Gray, qui nous emmène dans le New York de la fin de la Prohibition et couvre la période allant du début des années 20 à la fin des années 60. Dominique Simoneau, je vous ai dit hors antenne, mon Dieu, que ce film est triste, et vous m'avez fait une confidence très amusante.
Ben, si vous voulez, je suis sortie de ce film, quand le film est sorti, je suis allée le voir avec un ami, et quand on est sorti, j'ai dit, écoute, là, je crois qu'on n'a qu'une chose à faire, on va se saouler, parce que moi, en tout cas, je vais au café, et j'ai enfilé des gin tonic ou je sais plus quoi, mais je suis sortie de là ivrement, parce que je ne voyais pas quoi d'autre à faire.
Non, mais c'est terrible, mais... c'est la nostalgie, le temps perdu, les occasions ratées.
C'est un film magnifique.
Magnifique, qui donne envie d'aller dans des fumeries d'opium aussi.
Oui, je l'ai vu, je sais pas combien de fois ce film.
Et les femmes dans ce film, des femmes absolument sublimes,
oui.
Qui sont souvent maltraitées.
Souvent.
Voire violée, enfin, ça fait partie de la maltraitance, évidemment. Plusieurs scènes de viol, d'ailleurs.
Oui, enfin, une très marquante.
Oui, une très marquante, puisqu'elle est faite avec de l'amour.
C'est parce qu'elle vraiment... est fou d'elle.
Oui.
Et c'est atroce.
Atroce, dans une voiture.
Dans une voiture.
Bon, comment faire une transition là, peut-être avec un morceau de musique.
Mais d'accord.
Eh bien, on écoute un morceau de la playlist France Inter.
Stop.
Curious de Franz Ferdinand dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Dominique Simoneau. ...1964, Hard Day's Night des Beatles sur l'album éponyme. Dominique Simoneau, vous avez choisi le groupe mythique de Liverpool dans votre panthéon d'artistes.
Oui, je les adore. Quand j'étais jeune, j'étais amoureuse de tous ceux de John. Non, j'étais amoureuse de John. Je faisais partie de ces dingues qui s'arrachaient les vêtements en allant à leur concert, qui auraient tout donné pour... Voilà, et je les ai... Et j'adore écouter le... Je mentais à mes parents... J'ai dû voir 14 fois leur film. Je disais que j'allais là, que j'allais là. Et en fait, j'allais avec mes amis revoir 20 fois le même film en pleurant, en criant. Bon. Et j'adore. C'était gay, quoi. C'est mon enfance, ma jeunesse. C'est pour ça que je les adore toujours.
La fille de joie est triste. Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne pas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette musique. Son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste. Qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux.
1940, chanson de Michel Aimer interprétée par Édith Piaf, l'accordéoniste. Cette légende morte à 47 ans de son vrai nom, Edith Giovanna Gracion. Edith Piaf, Dominique Simoneau. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Ben, j'ai pour elle autant de tendresse que d'âme. Je sais pas, j'adore sa voix. Je trouve sa vie pathétique.
Oui.
En même temps magnifique. Et puis, alors, elle m'a, toute ma vie, elle m'a aidée. Comme Leonard Cohen d'ailleurs, je me dis tiens, il y a quand même dans les moments où j'étais triste, où je suis triste, je mets ces deux-là, Leonard Cohen ou Edith Piaf. Je me dis il y a quand même plus triste que moi, tu vois.
Si. Edith Piaf qui a perdu sa petite fille à l'âge de deux ans, qui a été élevée dans une maison close en Normandie, qui avait une maladie à l'œil, qui a vécu dans la misère, qui s'est prostituée,
oui, qui s'est droguée, qui tout. J'aime bien les gens déviants et elle l'était. Et voilà, pour moi, et puis je vous dis, elle m'a consolée beaucoup de fois. Par exemple, ayez un chagrin d'amour et écoutez les mots d'amour. Après, vous chantez en rigolant, vous dites, bah voilà.
Oui, ça devrait ça n'était parler que ça. À beaucoup. Voici le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Dominique Simoneau.
Vendredi, probablement 19h. Vite effectué un dernier trajet en tram, direction Hôtel de Ville. Grondement et vrombissement, tonnerre incessant des feux d'artillerie, la conductrice s'égosillait pour qu'on l'entende. Je dévorais des yeux les visages des gens autour de moi. Tout s'y trouve sur ces visages, tout ce que personne n'exprime. Nous sommes devenus un peuple de muets. Les gens ne se parlent plus que dans la cave changée en foyer commun.
Une femme à Berlin, lue par la comédienne Marianne Bassler pour la version audio du livre, publiée sur le site des éditions Audible. Une femme à Berlin, c'est le récit anonyme, publié pour la première fois en 1954 aux États-Unis, d'une jeune femme de 34 ans qui raconte tout ce qui se passe du 20 avril au 22 juin 1945, pendant que Berlin est livré aux Russes.
Voilà. Alors, j'ai choisi ce livre d'abord parce que quand on m'a posé la question ici, je me suis dit, quel livre ? Et je me suis souvenu, évidemment, parce que je pensais à l'Ukraine, et je pense à cette femme qui montre un courage, cette femme berlinoise, qui dont la ville est envahie par les Russes et qui subit tout ce que les femmes ont subi à Berlin à l'époque. Et elle montre une espèce de... J'ai rarement vu un courage, une détermination, pas un gémissement, pas une plainte, elle est là, je vais tenir, ce qu'elle veut, c'est vivre. Eh ben, si c'est vivre à ce prix-là, j'invite tout le monde à lire, enfin, ceux qui voudront, celles qui voudront. C'est pour moi l'exemple du courage, d'un courage que j'admire immensément. Et je dirais que, comme on est dans une société où on écoute beaucoup ce qu'on appelle la souffrance au travail, la souffrance ici, la souffrance là, je trouve que elle donne une leçon de courage. La souffrance, ça n'est pas tout. La souffrance, il y a plus ou moins de souffrance. Et puis, nous, les femmes, je trouve que j'en ai un peu marre qu'on nous prenne pour une sorte d'espèce protégée, ou à protéger, alors que on a des ressources immenses, un courage immense, et que, voilà.
Ce qui n'empêche pas de mettre en œuvre certaines mesures de protection dans certains cas. Mais... quand même, évidemment. Mais c'est vrai, arrêtons de nous montrer comme des mauviettes.
Mais voilà, on n'est pas des mauviettes.
Nous ne sommes pas des mauviettes.
Exactement, nous ne sommes pas des mauviettes. On est quelqu'un, quoi.
Ouais, solide.
Exact.
Comme des toasts. Je n'ai pas de meilleure métaphore. Dominique Simoneau, vous êtes née en Allemagne.
Oui.
Quel est votre rapport à l'Allemagne et à la culture allemande ?
Aucun.
Aucun. Vous avez choisi beaucoup, beaucoup d'allemands dans cette émission.
Bah, c'est ce que c'est ce que je vois, mais ça doit être l'inconscient qui parle.
Oui.
Mais comme je n'interroge jamais mon inconscient, j'en sais rien.
Ah, vous avez raison, c'est toujours mauvais ce qui s'y passe. Dans l'inconscient.
Je ne peux jamais aller chez le psy, je n'y vais pas. Et mon mari était psy, et il m'a toujours dit...
vous n'y allez pas, mais le psy vient chez
vous. Non, il m'a surtout dit, surtout ne fais pas ça, ne fais aucune psychothérapie, aucune psychanalyse, c'est pas la peine. Et aucun rapport, mon père faisait son service là-bas, et donc c'est comme ça que je suis née là-bas, par hasard.
Je vous ai demandé ce que vous aviez raté, vous avez répondu plein de choses, mais celle qui me fait bien rire, c'est mon oral de droit international privé. Vous pouvez nous le raconter ?
Ah ben oui, j'étais enceinte et c'était l'oral, donc, et j'arrive, je m'assieds devant le prof. Je dis pas que j'étais très vaillante sur le droit international privé, mais enfin quand même, je connaissais. Et tout à coup, comme j'étais enceinte, je sens un malaise monter. Je me dis, je vais quand même pas vomir sur l'examinateur. Donc je me lève et je dis, monsieur, ça va pas. Et je cours dans le couloir et il me criait, vous ça va pas ou vous savez pas votre cours. Ça va pas. Je suis allée vomir. Mais vraiment énormément aux toilettes, et je reviens, et le prof s'était barré, il m'avait mis zéro pointé. Zéro pointé, c'est-à-dire, mon année était fichue. Et figurez-vous que la justice existe quand même, parce que, je sais pas, 20 ans plus tard, ou je sais pas combien de temps plus tard, j'étais journaliste à Libé, et ce prof était une sommité, et c'était devenu une sommité sur le droit des étrangers. Et je l'ai interviewé. Et à la fin, une grande interview, pleine page, avec une belle photo. À la fin de l'interview, j'ai dit, vous vous souvenez pas de moi, mais moi, je peux vous dire que je ne vous oublierai jamais. Et je lui ai tout débité. Il était horrifié. Et ça a été un moment merveilleux pour moi.
Est-ce qu'il s'est excusé?
Il a dit, mais c'est pas possible. Je disais, ah ben, non seulement c'est possible, mais j'aurais dû vous apporter mon année foutue en l'air. Hein. Tout ça parce que, poliment, et j'ai dit, ça m'a appris une chose, la prochaine fois, je vous gerberai dessus.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment la conclusion à tirer de cette histoire.
Exactement. Ou je gerberai par terre.
Oui. Un entre deux. Oui. Dominique Simoneau, je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Vous avez choisi les sonates pour violon et piano de Bach. Là, on entend la sonate numéro 3 en mi majeur, Adagio ma non tanto, interprétée au violon par Christian Ferras et au piano par Cellini, Cheyet, Richet. Vous écoutez beaucoup de musique ?
Non.
Mais Bach, oui.
Bah ça, oui, parce que, encore une fois, c'est de mon enfance, mes parents l'écoutaient tout le temps. Bah moi, j'aime bien. Ça me rappelle, ça me remet. Je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être à nouveau jeune. Peut-être, c'est ça.
Vous ne pratiquez pas d'instrument ?
Non, je nage.
C'est bien. Une question comme ça qui n'a rien à voir et qui va sans doute paraître absurde, mais quel est le rôle de la musique ou la place de la musique dans les lieux de privation de liberté ?
Tout dépend. Alors, par exemple, dans les cellules de prison, on entend plein de musique, évidemment. Alors, imaginez ce que ça doit être quand vous êtes trois et que vous n'êtes pas d'accord sur le choix.
Sur des portables, sur des transistors, sur des...
Alors, les portables, pas. Oui, bien sûr, parce que il y a une certaine hypocrisie en prison qui fait que beaucoup de gens ont des portables et que Internet est interdit et le portable également. Alors maintenant, il y a des brouilleurs. Alors, ils sont marrants, les détenus. C'est une directrice qui m'a raconté ça. Elle me dit, ils sont marrants, mes petits gars, parce que, ils disent, allez, madame, on négocie. Allez, une heure sans brouilleur. Allez, deux jours sans brouilleur. Bon. En tout cas, ça marche pas partout, parce que moi, à un moment, je visitais une prison, je suis arrivée au quartier d'isolement et au quartier disciplinaire. J'avais mon portable dans ma poche, et c'est là que ma rafale de messages m'est arrivée. Donc,
ah oui.
Bon, je ne dis rien, je dirais sûrement pas où c'est, mais bon, c'est marrant. Et puis alors dans les hôpitaux psychiatriques, ben c'est la même chose. Les gens peuvent écouter la musique qu'ils peuvent choisir parfois, ou alors c'est de la télé qui leur envoie, ou alors oui, bien sûr. Et puis il y a la musique thérapeutique. Dernièrement, je suis allée dans un centre éducatif fermé, vous savez, pour enfants et adolescents. Et là, il y avait une pièce qui avait été aménagée avec une musique très douce, des bouddhas, des trucs aquatiques. C'était très joli, très sympathique. Les gosses pouvaient se faire même masser pour les détendre. C'était une infirmière extrêmement dynamique qui avait installé ça. Et voilà, bien sûr que ça joue un rôle, la musique. Et puis là, dans ce même centre éducatif fermé, j'ai entendu deux garçons, donc mineurs, qui faisait du rap et du slam, mais franchement, mais génial, c'était génial. Qu'est-ce qu'on était contents, on est resté une heure à les écouter avec l'équipe, on était fiers d'entendre ça.
Dominique Simoneau, on arrive à la fin de cette émission où je demande aux invités de prendre un engagement et vous avez répondu, vous ne trouvez pas que ça va me faire trop là ?
Bah, un petit peu quand
même. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vous pose une dernière question.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire, tous les gens qui nous écoutent, si on veut s'engager à petite échelle pour tous les sujets dont on vient de parler? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour les détenus?
Ben, vous voyez, il y a des associations. Alors, pour les étudiants, il y avait le Génépi qui a cessé d'exister. Bon, je vais passer les détails, mais on peut quand même, en tapant Génépi, aller adhérer, parce qu'il y a un renouveau Génépi, hein, ça s'appelle Rebond, je crois. On peut aussi écrire aux détenus. Il y a le courrier de Beauvais, par exemple. Il y a des associations comme la Farapège. Il y a l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, qui est très engagé auprès des détenus et qui fait sortir plein de choses et auxquelles on peut participer. On peut aller les voir, on peut leur parler, on peut les aider parce que ils ont pas beaucoup de subventions. Il y a franchement énormément pour les sans-abri. Ben, il y a le droit au logement. Il y a la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs. Tous ces gens-là, ils œuvrent énormément pour les plus pauvres et pour tous les gens déshérités qui terminent dans les lieux dont on a parlé et que nous, on contrôle. Et toutes ces associations, elles font un boulot extraordinaire qui est une partie du boulot de l'État. Et moi, je trouve que la vie vaut pas si on cavale pas à côté de ces associations, de ces gens-là. Ça me paraît la moindre des choses.
Merci beaucoup, Dominique Simoneau, d'être venu et de nous dire tout ça. Au nom de la justice, bon courage.
Eh ben merci.
Tout simplement. Avec grandiloquence.
Voyez-vous rigoler.
Non mais je rigole, mais
moi,
il y a aussi de l'effroi derrière.
Ça n'empêche pas.
Oui, non, ça n'empêche pas. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez l'élan vital d'une saucisse à vapeur. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.